Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, comment mieux gérer les ressources forestières? Vous savez, plusieurs communautés dépendent fortement de la forêt pour leur subsistance. Elle est la source d'une grande diversité des produits et d'activités. On peut citer la chasse, la cueillette, on y trouve le bois. Certains y vont pour pratiquer l'agriculture, ils vont pour chercher des fruits. Il y a des arbres fruitiers qui poussent là-bas. Nous avons les plantes médicinales, les produits forestiers non ligneux, voilà. Et perdre l'accès à ces ressources sera synonyme pour ces communautés de sombrer dans une situation de vulnérabilité accrue, de pauvreté et de faim. Alors, que faire dans ce cas pour mieux gérer les ressources forestières, pour réduire la pression sur la forêt? Hugues Akpona, directeur pays des AWF, qui est la Fondation africaine pour la faune. Alors, monsieur Hugues, dites-nous, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par ressources forestières?
Merci. Je crois les ressources forestières, déjà ressources, c'est tout ce qui peut procurer un certain bien-être à un certain groupe cible. Les forêts, comme vous le savez, c'est la biocénose, c'est tout cet ensemble d'écosystèmes complexes, des arbres aux animaux, aux micro-organismes, qui mettent en place un certain équilibre au niveau de nos systèmes et modes de vie et qui procurent un certain nombre de biens et de services aux populations, aux communautés que nous sommes et qui vivons en fait autour et aux dépens de ces ressources.
Mmh. Il y en a plusieurs, hein. J'ai cité quelques ressources, peut-être qu'il y en a d'autres.
Oui, les ressources, hein, ça part de tout ce qui est microscopique à tout ce qui est vraiment géant. Donc, de l'éléphant au micro-organisme, en passant par toute la chaîne qui se situe entre ces deux extrêmes. Donc, les produits forestiers non ligneux, les arbres, les chenilles, les insectes, les antilopes, tout ce qui peut constituer, avoir une certaine vie et quand même contribuer à l'équilibre de l'écosystème.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour mieux, ou quels sont, depuis un moment, on parle d'une certaine pression, les communautés riveraines qui sont autour des forêts exercent une forte pression sur la forêt, et parce que c'est de là-bas qu'ils tirent leur subsistance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à réduire tant soit peu cette pression?
Tout à fait. D'abord, il faut dire que cette pression prend de l'ampleur parce qu'il y a un croît démographique, parce qu'il y a de nouvelles tendances qui s'installent dans nos différents modes de vie, dans nos modes de consommation. Les ambitions de nos différents États en matière de développement continuent de constituer des éléments clés qui exercent la pression. Alors, pour réellement gérer cela, il faut d'abord considérer que la conservation est un élément clé pour le développement et que l'homme est au centre de la conservation. Et donc, pouvoir faire un certain équilibre donné entre le bien-être des communautés, le bien-être des populations qui vivent aux dépens de ces ressources et le bien-être de la ressource elle-même. Mmh. Parce qu'elle doit, rester et perdurer pour toujours continuer par fournir ses biens et services. Comment y arriver? Il faut travailler vraiment avec les acteurs en présence, en améliorant les revenus, en améliorant le bien-être, en réduisant la vulnérabilité pour réellement sauvegarder les espèces végétales et animales et préserver les services environnementaux. Parce que vous savez, au-delà de la présence de ces espèces comme des entités, ces espèces fournissent des services au niveau des différents groupes cibles qui vivent aux dépens de ces ressources.
Alors, parlez-nous par exemple de l'expérience de AWF. Vous travaillez en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur. Qu'est-ce que vous avez pu, quels sont les projets, disons, les activités que vous avez pu mener pour arriver à réduire tant soit peu la pression sur la forêt?
Ok, dans un premier temps, comme je le disais, il faut faire l'équilibre. En termes donc d'activités directement de conservation, nous investissons dans la protection des habitats, donc la création d'aires protégées, la gestion de ces aires protégées de manière participative, l'élaboration d'outils de gestion durable et l'appui aux communautés. Nous investissons dans la planification de l'utilisation des terres, la sensibilisation, le plaidoyer au niveau politique, etc. Tout ce qui peut concourir à la meilleure gestion de ces ressources. Et de l'autre côté, du côté de l'appui aux communautés, nous développons un certain nombre d'alternatives. dans l'agriculture durable, dans l'appui à l'autonomisation de la femme, dans l'investissement dans l'éducation à travers l'école de conservation. Et puisque, vu le caractère un peu reculé du paysage dans lequel nous intervenons au niveau de la province de l'Équateur, nous avons mis en place un projet bateau qui, en fait, permet de connecter ce milieu aux grandes villes. Donc, nous avons un projet bateau qui fait des allers-retours dans le paysage, amène des produits manufacturés, des tôles, le sel, le sucre, des tout produits qu'on ne peut pas produire, en fait, au niveau local. Mmh. Et faire ressortir maintenant des produits agricoles qui sont issus de notre appui à l'agriculture durable pour donc servir les communautés au niveau riverain, parce qu'au niveau des villes, il n'y a plus assez de terre pour produire le maïs, pour produire l'haricot, etc. Donc, cet échange permanent entre les villes et puis le paysage constitue aussi une de nos stratégies pour permettre réellement d'améliorer un tant soit peu les niveaux de revenus au niveau local et aussi de continuer à desservir les villes en matière alimentaire.
Est-ce que cela a vraiment aidé cette année, par exemple, de réduire la pression sur la forêt?
Vous savez, la réduction de la pression sur la forêt est un processus qu'on ne peut pas évaluer en une année. Donc, cette évaluation que je ferai, elle peut être sur 5 ou 10 ans, où nous avons quand même constaté, dans certaines zones, pas toutes les zones, pas sur tous nos sites, bien évidemment, une certaine amélioration du couvert végétal, une certaine réapparition d'un certain nombre d'animaux, la fréquence d'observation des animaux qui, d'une manière ou d'une autre, commence pas à s'améliorer. Et il faut aussi dire que nous observons davantage dans le paysage une meilleure prise de conscience à certains endroits dû à nos activités de sensibilisation, de conseil, d'appui conseil, de soutien au niveau local en termes d'alternatives, etc. Mmh. Donc nous pensons quand même que, à notre avis, la conscience environnementale a quand même pu grandir un peu dans ce paysage dans lequel nous intervenons.
Mmh. Donc la première chose, c'est de chercher à améliorer les revenus des populations autochtones en développant d'autres activités. Vous avez parlé par exemple des activités agricoles. Et ces activités agricoles sont pratiquées dans la forêt ou c'est en dehors de la forêt?
Alors, nous sommes dans un processus de zonage. Le zonage, et ça fait partie des outils de gestion durable des ressources forestières, où nous définissons avec les communautés les zones où elles peuvent pratiquer l'agriculture, les zones qui sont des zones de forêt permanente. Donc, nous avons ce processus où nous accordons en signant des accords quiproquo avec les communautés qui leur permettent quand même de définir ensemble avec nous les aires où elles peuvent faire de l'agriculture.
Donc, il faut collaborer avec les communautés.
Obligatoirement.
Il faut pas leur imposer des choses.
Rien, personne n'avance en imposant une directive à un partenaire, parce que les communautés riveraines autour de ces ressources sont pour nous des partenaires clés que nous devons réellement impliquer, intégrer leurs différentes opinions pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est un peu le chemin de bataille quotidien à WWF dans ce processus au niveau de l'Équateur.
Nous avons un premier auditeur en ligne, PACA. Il nous appelle des bancs de nos villes. Nous parlons de comment mieux gérer les ressources forestières avec Hugues Agpona, directeur pays des AWF, Fondation africaine pour la faune. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Bien, PACA, vous êtes à Bandounouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Je vous parle ici en tant qu'autorité traditionnelle, en tant que chef coutumier et en même temps député provincial copté, parce que vous voulez parler de forêt. Il y a une mauvaise conception de cette notion ici en République démocratique du Congo. Vous savez, vous aviez donné comme argument pour dire que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est pour cela que tout ne peut pas aller dans ce pays. Le sol et le sous-sol appartiennent à nos ancêtres que l'État gère en partenariat avec les chefs coutumiers, avec les représentants de ses ancêtres qui sont les chefs coutumiers. Lorsque vous aviez confisqué ce sol, ce sous-sol au profit des individus, soi-disant l'État qui est représenté par les individus, avec le sol, vous avez la police qui a confisqué, vous avez la territoriale, vous avez le parquet, vous avez tous les services étatiques qui ont confisqué ce sol. Et lorsque vous voulez planter quelque chose, semer quelque chose, vous n'aurez rien parce qu'il y a la malédiction là-bas. Essayez de corriger l'ordonnancement juridique de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de découpage, démembrement. L'État n'existe plus. L'État est là, mais mal organisé. Le président de la République est représenté par le gouverneur.
Oui, monsieur Paca.
Vous arrivez quelque part dans une province, vous décapitez le gouverneur.
Monsieur Paca, nous parlons, notre entretien aujourd'hui tourne autour de la gestion des ressources forestières. Alors,
cette gestion, monsieur, vous gérez ça très mal parce que les gens pleurent, les enfants meurent, les enfants n'étudient pas, les parents n'ont pas de produits pharmaceutiques, les parents n'ont pas à manger. Essayez de revenir, de faire une marche arrière. Pour demander aux chefs coutumiers ce que vous devez faire pour que le pays puisse marcher.
D'accord. Merci pour votre intervention. Ousseni, vous êtes à Kamina. Bonjour. Ousseni, bonjour.
Bonjour, papa, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, je voudrais juste demander à notre invité. J'ai une question qui m'est à cœur ici. Je voulais que tu m'expliques. Est-ce que vous me suivez là-bas?
Allez-y, monsieur Ousseni, veuillez fermer votre radio. Vous allez suivre à partir de votre téléphone. Et allez-y rapidement.
Oui, oui, je suis à distance. Mon appareil n'est pas assis juste à côté de moi.
D'accord. Là, quelle est la question?
Bon, je voudrais juste demander à notre invité du jour qu'il nous explique un peu si on peut sauver un endroit, parce que ici à Kamina, c'est une ville à savane, il n'y a pas beaucoup d'arbres et beaucoup de boue.
Oui, et la question est de savoir si on peut faire quoi?
Et c'est de savoir quelle est la meilleure procédure qui peut nous aider à remplir notre vie de Kamina, juste en termes. En termes de quoi d'agroforesterie, de remplir les arbres par-ci, par-là pour couvrir cette savane.
D'accord, merci. Monsieur Hugues, vous avez la parole.
Merci déjà aux deux qui sont intervenus. Je salue l'autorité, le député provincial, le chef coutumier.
Chef coutumier.
Et je le remercie pour ces différentes orientations qui, en fait, entrent déjà dans les outils que nous développons au niveau terrain, à savoir pouvoir gérer de manière participative avec tous les acteurs. Et quand nous parlons d'acteurs, nous incluons les autorités coutumières, nous incluons les communautés, nous incluons les autorités locales, etc. Et c'est dans cette dynamique que nous devons pouvoir avancer. Et je profite aussi.
Il n'y a pas d'imposition. Hein.
Pas d'imposition. Et je voudrais aussi profiter pour dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo a récemment signé un décret qui donne quand même un certain droit sur le foncier pour des communautés qui veulent développer des forêts communautaires, des forêts de communautés locales. Et pour moi, celui-ci est un bon créneau pour réellement gérer ces conflits au niveau du foncier, etc. Mmh. Pour revenir à monsieur Ousseni, je pense que ce que moi je conseillerais dans un premier temps, c'est de savoir quelle est la situation du foncier dans votre zone. Est-ce que les autorités au niveau local sont partante pour installer des forêts, ne serait-ce que des forêts urbaines. Et d'abord, voir quelles sont les espèces qui sont d'utilité pour vous, pour les communautés, et quelles sont les espèces que vous auriez aimé. Et scanner un peu l'environnement, savoir qu'est-ce qu'il y a en termes de pépinières, quelles sont les capacités existantes actuellement pour pouvoir produire des plants et pour pouvoir maintenant les mettre en terre. Je crois qu'il y a quand même des services compétents au niveau de votre zone qui pourraient être impliqués dans ce processus. Sélectionnez les bonnes espèces, sélectionnez les espèces d'utilité pour vous et voyez un peu qu'est-ce qu'il y a comme pépinière qui existe et faites un plan. Et cela peut être appuyé à tout moment, directement ou indirectement, par les acteurs en présence, dont les ONG qui interviennent dans votre zone.
Bien. Comment mieux gérer les ressources forestières? Vous avez dit que le zonage, il faut d'abord arriver à déterminer, à faire le zonage, à déterminer la partie qui sera exploitée et celle qui ne sera pas exploitée par les populations riveraines. Mais est-ce que ça marche toujours?
Je dirais que ça marche dans quand même 70% des cas, dans 70% des cas où les communautés sont vraiment engagées dans ce processus à travers des accords quipoco et que ces communautés essaient de respecter. Mais l'idée, c'est réellement de pouvoir gérer cette pression qui se fait grandissante en se disant, bon, qu'est-ce que nous faisons, où et quand et comment. Et c'est ça les questions clés que nous nous posons et qui nous amène à faire ce zonage qui définit les zones d'exploitation et puis les zones de forêt. Avec, dans les zones d'exploitation, un plan clair de rotation pour éviter de dégrader cet espace, parce que si nous délimitons des zones d'exploitation pour l'agriculture et que nous les exploitons de manière anarchique, forcément...
Et il y a certains qui continuent à recourir à l'agriculture sur brûlis.
Oui, tout à fait.
Négatif sur
tout à fait. Beaucoup continuent pas à y recourir. Et c'est un peu dans ce sens que nous avons notre partenaire IITA dans le paysage Maringa Lopori-Wamba qui s'investit à vraiment faire changer ce comportement, cette manière de faire, cette pratique d'agriculture itinérante sur brûlis pour revenir à une agriculture beaucoup plus durable qui privilégie la rotation, les semences améliorées, etc.
Bien, nous retenons pour mieux gérer les ressources forestières. Vous avez dit la première chose à faire, c'est d'aider les populations riveraines à améliorer leurs revenus. Et c'est ce que vous faites, par exemple, avec cette activité agricole. Vous avez un bateau Moïse qui prend les populations, disons qui prend les produits forestiers qui vient les écouler à Kinshasa et en plus qui prend certains produits manufacturés pour les rendre disponibles dans la zone où vous intervenez. Alors, à part ça, quelles sont les autres stratégies à mettre en place?
À part ça, à part ce projet bateau, les autres stratégies, d'abord, vous êtes d'accord avec moi que toute population qui se veut prospère doit vraiment s'éduquer. Donc, nous intervenons dans l'éducation où nous avons appuyé la construction d'une école dans le paysage, et une école que nous appelons une école de référence pour nous. Et nous avons déjà un certain nombre de résultats en termes de nombre de personnes inscrites, en termes de qualité de l'enseignement, où nous faisons le recyclage des enseignants dans cette zone, parce que vous savez, le fait que cette zone soit assez reculée, il y a vraiment pas un engouement à y aller. Donc, les ressources qui sont en place, il faut quand même pouvoir les renforcer leur capacité. Et nous sommes en collaboration avec la province éducationnelle pour réellement.
Vous avez parlé du paysage Maringa
Lopori-Wamba.
C'est où exactement?
C'est dans la province de l'Équateur. C'est dans la province de l'Équateur. Et bon, actuellement, c'est dans la province de la Chuapa.
Oui,
essentiellement.
Avec les découpages.
Avec le nouveau découpage, nous sommes partagés entre plusieurs provinces actuellement, mais essentiellement, la plus grande partie du paysage sera dans la province de la Chuapa.
D'accord. Et vous étiez en train de dire qu'il y a d'autres activités qui ont été menées.
Justement,
éduquer les enfants,
éduquer
par rapport à la forêt.
Par rapport à la forêt, par rapport même à l'éducation classique à l'école. Et aussi intervenir dans l'agroforesterie. Dans l'agroforesterie pour promouvoir des espèces d'utilité. Vous prenez par exemple l'arbre à chenilles. Vous savez avec moi l'importance des chenilles pour les communautés dans cette zone. Nous faisons la promotion de l'agroforesterie. Nous avons pu quand même avoir déjà des chenilles sur des arbres plantés en milieu disons périurbain.
Ok.
Et nous intervenons aussi dans.
Est-ce que c'est la saison
Non, actuellement c'est pas la saison de production en masse, mais cette saison est passée. Déjà, vous savez, on est déjà en saison pluvieuse dans le paysage, donc la récolte des chenilles est déjà passée il y a quelques mois. Et aussi, nous faisons la promotion de quelques micro-projets au niveau communautaire, des idées qui viennent des communautés. Et surtout, l'essentiel dans tout cet appui, c'est réellement d'identifier ce qui peut fonctionner avec les communautés, qui soit techniquement, économiquement et socialement acceptable.
Donc, cela veut dire qu'il faut prendre le temps de parler avec les communautés, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
tout à fait.
Pour diminuer la pression sur la forêt.
Et cette année, nous avons essayé de conduire une étude qu'on appelle l'étude BNS. Les nécessités standards de base.
Oui, c'est parlez-nous de cette étude.
Oui, ça c'est une étude qui est un outil qui a été développé par l'USAID pour apprécier un peu l'impact des activités des appuis aux communautés sur leur niveau de vie. Et nous avons essayé de voir des villages témoins où nous n'avons pas réalisé des appuis et des villages projets. Et nous avons appliqué cet outil et avons constaté qu'il y a vraiment une nette amélioration entre une différence significative entre les villages qui ont reçu des appuis et ceux qui n'en ont pas reçu. Et pour nous, c'est un indicateur essentiel. Certes, ça ne veut pas dire que tout est rose.
Parce que vous l'avez dit aussi, mais malgré cela, la pression sur la forêt continue à augmenter.
Ouais, la pression sur la forêt continue à augmenter sur certains sites où nous avons quand même des tendances à la déforestation qui sont certaines fois à la baisse, certaines fois à la hausse. Mais dans certains de nos sites comme la réserve de faune de Lomako-Yoko-Kala, nous observons quand même une certaine tendance à l'amélioration en termes de couvert forestier, en termes d'abondance d'espèces animales.
Alors, si la pression sur la forêt continue à augmenter, quelles sont les conséquences que cela va entraîner par la suite?
Justement, si la pression continue par augmenter et que les populations en nombre, la taille de la population continue par augmenter, la conséquence est claire, c'est que les ressources ne seront plus suffisantes pour satisfaire le besoin grandissant de ces communautés riveraines. Mmh. Et ceci constitue pour nous un défi majeur et constitue en fait la motivation pour la lutte pour la préservation de ces ressources.
Et il y a également la coupe des bois, si l'on continue à couper le bois.
Oui,
ça aura un effet sur le climat.
Forcément. La déforestation a forcément un impact sur le climat et je pense que ça fait partie des discussions qu'il y a eu récemment à Paris à la COP21 où ça a été vraiment un grand débat après la réunion de Copenhague qui a à notre avis échoué d'une manière ou d'une autre où de nouvelles décisions ont été prises. Je crois qu'il y a eu des estimations qui de la quantité de carbone estimé à 55 gigatonnes qui pourrait entraîner une augmentation de la température de 2 degrés. Et je crois que les pays réunis à Paris ont pu quand même trouver le mécanisme pour maintenir cette projection à autour de 40 gigatonnes pour espérer aussi réduire la projection d'augmentation de la température à moins de 2 degrés. Mais cela interpelle vraiment beaucoup de pays, tous nos États, qui doivent réellement s'y investir. Généralement, on dit que les pays africains sont ceux qui polluent moins, mais il faudrait que les pays africains ne copient pas les erreurs des Européens qui ont quand même détruit beaucoup et qui aujourd'hui accentuent ce problème. Et donc, ça nous interpelle dans nos modes de consommation, dans l'identification vraiment de nos choix de manière pertinente et optimiste. Et aussi, il y a plein de mécanismes de financement qui ont été mis en place pour aider les pays en développement. Et moi, je dirais qu'il faut que nos pays africains aussi s'investissent à utiliser de manière rationnelle ces ressources pour atteindre l'objectif. Ça, c'est un élément pour moi assez important. Et que on puisse vraiment développer des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique qui soient réalistes, pratiques, bénéfiques pour nos communautés et qui puissent nous permettre d'améliorer toutes nos conditions de vie.
Par exemple, pour les communautés, il faut les aider à augmenter les revenus. Vous avez parlé de ça.
Il faut réduire leur vulnérabilité.
Leur vulnérabilité, oui.
Il faut améliorer leur bien-être, qu'elles se sentent quand même d'une manière ou d'une autre plus à l'aise qu'auparavant.
Comme l'a dit le chef coutumier
tout
à l'heure.
Comme l'a dit le chef coutumier, je suis parfaitement d'accord avec lui. Donc, il faudrait, et cela interpelle aussi tous les acteurs. Déjà, les autorités doivent pouvoir s'y investir, donner le meilleur d'eux-mêmes, etc., pour y aller. Et je me dis, que ça soit autorité coutumière, autorité locale, autorité provinciale, au niveau du gouvernorat ou au niveau national, chacun a un rôle clé à jouer. Parce que, dites-moi, si les autorités ne prennent pas pour chemin de bataille la gestion de ces ressources forestières, et prennent des décisions en termes de priorisation du développement au niveau national qui impactent négativement ces ressources, vous convenez avec moi que les efforts ne pourront pas produire les fruits expectés. Donc, il est important que tous ces acteurs se mettent ensemble, s'investissent, que chacun définisse clairement son rôle dans ce processus.
Voilà, donc il faut coopérer avec les communautés, il faut les aider à améliorer leurs conditions de vie, c'est très important, et cela va permettre de réduire la pression sur la forêt et préserver ainsi l'environnement. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, et on est presque à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un message à passer par rapport à la conservation?
Ok, je dirais tout simplement, j'exhorterai tout le monde, y compris moi, à vraiment préparer et organiser ces fêtes de fin d'année dans le respect de la nature. Il faudrait donc respecter la nature dans la préparation de l'organisation des fêtes de fin d'année en menant vraiment des actions qui n'impactent pas négativement les ressources. Et ça, c'est dans les comportements quotidiens. Il faudrait, je conseillerais par exemple qu'on choisisse des cadeaux qui ont un trait avec la nature, la biodiversité, qui parlent, qui donnent, délivrent un message. Vous savez, en fin d'année, on fait des fêtes, il y a des déchets qui sont produits par-ci, par-là. Il faudrait qu'on puisse quand même se rappeler que nous devons vivre dans un environnement sain et ne pas jeter ces déchets un peu partout pour rendre le cadre de vie un peu malsain. Si possible, organiser de grands nettoyages dans les quartiers, et je conseillerais aussi qu'on évite autant que peut se faire la viande de bouse dans les casseroles pour la fin de l'année.
Pour la fin de l'année. Merci Hugues Akpona, directeur pays des AWF, Fondation africaine pour la faune. Oui, vous avez autre chose à dire?
Juste à vous remercier. Vous remercier Radio Okapi, parce que c'est déjà votre contribution à la conservation de la nature. Remercier nos différents partenaires. D'abord l'USAID, qui finance plusieurs de nos opérations, qui fait le grand programme environnement en Afrique centrale, avec le gouvernement de la Norvège qui appuie réellement ce programme CARPI.
Merci, à la prochaine.
Merci.